Vous écoutez RTL.
7h48, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius.
Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'organiser pour le compte du gouvernement la conférence internationale sur le climat qui aura lieu à Paris au mois de décembre prochain. Et c'est dans la perspective de ce grand rendez-vous qu'RTL bouge pour la planète en proposant ce matin, et ce sera le cas durant toute l'année, des reportages, des analyses sur la situation climatique de la planète. Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement, Laurent Fabius, quels sont les enjeux de ce grand rendez-vous de la fin de l'année ?
Trois enjeux. D'une part, obtenir un accord universel, 195 pays, qui prennent les dispositions pour que la température n'augmente pas de plus de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Premier objectif. Deuxième objectif, que chaque pays du monde donne ses engagements pour les années qui viennent, les 10, les 20, les 30 ans qui viennent. Troisièmement, collationner suffisamment de financement pour que tout ça soit réaliste.
Il y a eu plusieurs rendez-vous de ce type, Laurent Fabius, et tous se sont pratiquement soldés par des échecs. Pourquoi en serait-il autrement cette fois-ci ?
Parce que, d'une part, le phénomène est plus grave. On va en parler, le dérèglement climatique, c'est la vie quotidienne. Quand vous voyez la gravité des typhons, les mers qui montent, la biodiversité qui s'affaisse, c'est pas pour dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est aujourd'hui.
C'est déjà le
Donc,
cas.
Donc, il y a une gravité plus grande. Et puis, il y a trois phénomènes très importants qui sont nouveaux. D'abord, scientifiquement, ce n'est quasiment plus discuté. Il y a quelques années, on discutait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On sait maintenant, grâce notamment aux travaux du GIEC, que c'est vrai. Deuxièmement, les grands responsables politiques, en particulier de pays qui étaient réticents, je pense à la Chine et aux États-Unis, maintenant veulent s'engager. Et troisièmement, les entreprises ont compris que c'était nécessaire et que non seulement c'était indispensable, mais que ça pouvait redonner du tonus à leur croissance. Donc ça a complètement changé la tonalité. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit facile. Ça va être extrêmement difficile, je préviens à l'avance, que rester déjà sous les 2 degrés, ça va être très difficile, parce que quand vous avez 195 pays, et qu'il faut qu'à la fin ils lèvent tous la main pour dire oui, vous imaginez la difficulté.
Vous en avez parlé, Laurent Fabius, la Chine, les pays émergents... rechigne à entrer dans un accord tel que, en général, l'Occident le propose et ils disent, écoutez, c'est vous qui polluez beaucoup, faites
aussi,
d'abord des efforts, nous on a un développement à assumer.
Ben, là aussi, ça évolue. C'est vrai que, oui, c'est tout à fait vrai. Par exemple, la Chine, qui jusqu'à présent était réticente, a passé avec les États-Unis un accord qui est d'une très grande importance il y a quelques mois, où elle s'engage, même si on peut espérer que l'engagement sera plus fort encore, elle s'engage à changer son mode de croissance. Vous avez un pays comme l'Inde qui est en train petit à petit d'évoluer. Vous avez toute une série d'autres pays qui évoluent dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'ils se posent la question. D'abord, ils disent, mais écoutez, vous êtes développé et maintenant, est-ce que ça ne va pas nous empêcher de nous développer ? Ils se posent le problème des technologies, ils se posent le problème des financements. Par exemple, les petites îles, ce qu'on appelle les Aosis, qui risquent d'être recouvertes complètement par la montée des eaux, disent, bon, c'est très bien votre affaire, mais comment on fait ? Quelle technologie ? Quel financement ? Où est-ce qu'on va envoyer notre population ?
Donc, beaucoup d'intérêts contradictoires, de situations particulières à faire rentrer dans un accord général.
Oui.
Vous aurez du travail pendant un non, pour préparer
oui,
tout cela.
Bien sûr.
Ponctuellement, l'énergie fossile est très polluante, mais quand on voit la baisse du prix du pétrole, est-ce que ça ne va pas dispenser beaucoup de pays de faire des efforts pour les énergies renouvelables ?
Il y a deux interprétations. L'interprétation pessimiste, celle que vous dites. Comme le prix des énergies fossiles baisse, on peut dire, bah, du coup, c'est pas nécessaire d'avoir d'autres types d'énergie.
Ça va retarder sans doute la mise en place d'autres
mais
énergies.
Mais il peut y avoir aussi l'autre interprétation, qui est de dire, avec les économies financières, qu'un certain nombre de pays vont réaliser, puisque les énergies fossiles sont moins chères, il va falloir aller vers les énergies nouvelles.
Et donc,
et les économies d'énergie.
Et donc la baisse du prix du pétrole ne risque pas de disperser un peu les énergies ?
Si, elle risque, mais c'est la raison pour laquelle l'un des objectifs aussi de cette conférence climat, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la fixation d'un prix du carbone, qui est indispensable si on veut que l'ensemble de l'économie comprenne qu'il faut une économie décarbonée.
Ségolène Royal, ministre de l'écologie, a évoqué il y a une semaine la nécessité de construire de nouvelles centrales nucléaires en France.
Alors ça, c'est un autre sujet.
Est-ce bon, que
la France, évidemment,
c'est justifié ?
La France est partie prenante. Eh bien, la France a décidé de diminuer la part du nucléaire dans la production d'électricité. Aujourd'hui, on est à
70%,
75%.
À peu près.
L'objectif est d'aller à 50%. On
en
serait 2025. Quand même le pays qui aurait la part du nucléaire la plus importante. Mais évidemment, ça demande une évolution dans nos centrales. Ben, pas l'arrêt des centrales, mais une certaine évolution.
Mais donc, il faudra faire de nouvelles centrales en France.
Alors, il y en aura.
C'est un peu contradictoire tout de même. On nous dit la part d'énergie nucléaire doit baisser, puis on nous dit
faisons bien attention à ça. Mm-hmm. Le nucléaire ne produit pas de CO2, de carbone. Bon, de ce point de vue-là, alors il y a d'autres contestations, mais de ce point de vue-là, c'est positif. Simplement, si on veut passer de 75 à 50%, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de centrales qui vont fermer, mais comme on ne va pas faire durer les centrales pendant 150 ans, il y en a d'autres nécessairement qui petit à petit seront mises en route.
Bon, vous répondrez donc tout à l'heure, Laurent Fabius, puisque vous avez accepté aux questions des auditeurs sur tous ces problèmes, les questions seront nombreuses. Si on peut évoquer rapidement avec vous, pour la fin de cette interview, la situation internationale, les conséquences des attentats en France. Oui. Le Premier ministre Manuel Valls a évoqué hier la situation des banlieues françaises en utilisant une formule qui fait polémique. Il a parlé d'un apartheid territorial, social et ethnique. La formule vous paraît juste, Laurent Fabius ?
Ce que je crois, et je suis sûr, Manuel Valls a voulu dire, c'est qu'il y a une ségrégation considérable que tout le monde observe. Malheureusement, c'est vrai que selon que vous avez telle ou telle couleur de peau, que vous avez tel ou tel niveau social, c'est pas la même chose dans la réussite des études, dans l'entre-gens, etc. Alors, au sens juridique...
Le mot d'apartheid vous paraît adapté ?
L'apartheid, vous l'avez connu. L'apartheid, c'était le fait que juridiquement, tous ceux qui étaient noirs n'avaient pas les mêmes droits que les blancs. Le problème n'est pas en France un problème juridique, c'est un problème de réalité. Donc ne nous disputons pas sur les mots. La réalité, c'est qu'il y a une ségrégation et il faut lutter contre elle.
Ouais, il ne faut pas se disputer sur les mots, mais il faut nommer justement les choses. Donc la question, c'est de savoir si le mot apartheid résume justement la situation.
Bon, j'entre pas là-dedans. La réalité,
vous avez une petite réticence, en fait.
Non. La réalité, c'est qu'il faut que chacun ait des chances égales de réussir. C'est dans la devise de notre République.
La violence des réactions dans les pays musulmans contre la de Charlie Hebdo, vous inquiète-t-elle ?
Bien sûr, c'est un gros problème, et c'est un problème pas facile. D'un côté, la liberté d'expression en France, elle doit être absolue, c'est un pied de la démocratie. Évidemment, s'il y a des excès, insultes, appels à la haine, il peut y avoir appel devant les tribunaux, mais c'est un principe sur lequel on ne va pas déroger.
Mais les pays musulmans semblent
comme
ne pas comprendre
notre raisonnement. Toutes les images sont diffusées dans le monde entier, et que les cultures là-bas sont différentes, ça peut choquer. Et donc, il faut que nous expliquions que, non seulement, c'est absolument pas, la France ne veut pas du tout insulter une religion, en l'occurrence la religion musulmane, mais si nous luttons contre le terrorisme, c'est d'abord les musulmans que nous protégeons, parce que les musulmans sont les premières victimes du djihadoterrorisme et de l'islamisme radical.
Vous serez au Koweït la semaine prochaine pour tenter d'expliquer la position française ?
Non, je n'y vais pas j'y vais, mais ce n'est pas l'objet de mon déplacement. L'objet de mon déplacement...
Vous serez sans doute questionné là-dessus.
Mais je serai questionné et je répondrai. Et j'ai eu beaucoup de contacts ces jours derniers avec mes collègues de l'ensemble des pays arabes, bien sûr.
Est-il abusif de dire que le Qatar indirectement finance la lutte contre le terrorisme, Laurent Fabius ?
Oui.
C'est abusif.
J'ai dit que nous avions fait faire par nos services des enquêtes précises qui avaient montré que ce n'était pas exact. Si...
Le département d'État américain en a fait d'autres qui semblent aboutir à un résultat qui n'est pas le même.
Oui, bah, écoutez, nos services, ils sont compétents et d'autre part... les Américains, le gouvernement américain a d'excellents rapports avec le Qatar. Donc s'il était persuadé que le Qatar finançait le terrorisme, il y aurait probablement d'autres rapports. S'il était avéré que les choses changent, nous changerions évidemment nos modes de relation. Mais il n'est pas question ni d'accuser injustement, ni si peu que ce soit d'être complaisant vis-à-vis du terrorisme qui est notre adversaire.
La diplomatie française, Laurent Fabius, s'associe-t-elle au mouvement mondial en faveur de Raif Badawi, blogueur saoudien menacé de 1000 coups de fouet, ce qui met en danger sa vie?
Oui, nous sommes intervenus, et d'ailleurs la sentence qui est inhumaine a été suspendue, j'espère qu'elle sera complètement rapportée.
Laurent Fabius, tout à l'heure à 8h15 avec les auditeurs d'RTL.
Et même tout de suite, puisqu'on va prendre un premier auditeur pour se donner le goût de ce dialogue avec le ministre des Affaires étrangères. Bonjour Eric.
Bonjour.
Bonjour monsieur Calvi. Laurent Fabius vous écoute.
Bonjour monsieur Fabius.
Bonjour.
On m'a donc appelé tout à l'heure pour me consulter sur une intervention concernant donc des grandes décisions nationales et internationales à propos de l'environnement et des réformes à faire, si j'ai bien compris. Et donc, je voulais attirer votre attention sur ce que, effectivement, les grandes décisions géopolitiques sont absolument nécessaires. Cela dit, je me permets aussi de témoigner qu'il y a quand même beaucoup à apprendre de petites initiatives locales, non seulement en France mais ailleurs, et que ces initiatives-là sont pourvoyeuses d'emploi, de cohésion sociale, de solidarité, et amènent justement à des progressions notamment techniques qui échappent encore un petit peu à ce qu'on devrait prendre en compte en termes d'élaboration d'une meilleure politique.
Alors en fait, la question d'Éric, excusez-moi Laurent Fabius, c'est est-ce qu'on peut trouver, voilà, à l'échelon vraiment local, des propositions intéressantes?
J'ai bien compris la question. Il faut à la fois, évidemment, des décisions mondiales, mais il faut aussi des actions locales. D'ailleurs, dans la COP21 dont nous parlons, il y aura ce qu'on appelle un agenda des solutions, c'est-à-dire, à côté des grandes décisions mondiales, nous allons rassembler toutes les initiatives des collectivités locales, de la société civile et des entreprises, parce que c'est elles qui peuvent concrètement, vous y avez fait allusion, donner de bons résultats.
Merci Laurent Fabius. Vous restez bien entendu avec nous pour continuer ce dialogue avec nos auditeurs au 3210. Il y a bien une ségrégation sociale dans notre pays. En luttant contre le terrorisme, nous défendons aussi les musulmans et le Qatar ne finance pas le terrorisme. C'est ce que vous venez de nous dire. C'est un entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.